Ben.
Allez, on parle de télécommunications ce matin. Quelle réglementation pour Starlink? Vous entendrez le directeur de la DGEN et le directeur technique Donati. On parlera aussi de ces rejets de cocaïne en mer en débat bientôt à l'Assemblée. Et puis cette victoire de Moana Domenech hier sur l'eau. Le journal de la rédaction est présenté par Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Un arrêté annulé, un second qui pourrait bientôt l'être, deux projets de loi de pays qui n'ont pas été votés. Qu'en est-il des règles pour les télécommunications? C'est
oui,
la question.
Voilà, et surtout que se passe-t-il alors pour Starlink et les autres opérateurs satellitaires? Les professionnels locaux sont inquiets. Moeta Ibroverson avait même parlé d'une Polynésie laissée open bar et le directeur de la DGEN, Reimana Lallement-Mohé, confirme que les risques sont important pour les opérateurs locaux. Ouvrir la porte à Starlink et compagnie sans contrôle et sans préparation aboutirait tout simplement à la mort des opérateurs du Fénois.
C'est un risque de disparition. Selon les études, on a de 400 millions à 2 milliards de pertes en un an. Et pour d'autres études, ça peut aller jusqu'à 4 milliards de pertes. Donc effectivement, les opérateurs pourraient souffrir très très rapidement d'une ouverture non contrôlée à ce type d'équipement. Encore une fois, il ne s'agit pas de bloquer de manière pure et dure les équipements de type Starlink. Il s'agit d'encadrer en fait leur utilisation en Polynésie. Malheureusement, il faudra adopter une nouvelle loi du pays.
L'utilisation d'antennes Starlink ici sans réglementation, c'est encore interdit, pose même des problèmes de sécurité. Impossible pour les juridictions d'intercepter des données sur ce type d'équipement. Il est donc temps de faire évoluer la réglementation. De nouveaux textes donc sont en préparation.
Ce qui importe à l'usager aujourd'hui, c'est d'être connecté, d'être bien connecté. Dès lors que la connectivité est bonne, dès lors que les services sont bons, évidemment c'est un choix qui est plus rationnel. C'est-à-dire qu'on utilisera des outils de type Starlink quand, évidemment, on est en situation de déconnexion. Mais si je peux avoir la fibre et si j'ai une offre qui est pas chère et qui est beaucoup plus efficace, évidemment, je vais, de manière rationnelle, utiliser cette offre. Et c'est pas toujours le cas aujourd'hui, donc il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts à ce niveau. Ça va demander pas mal de réformes aussi.
Améliorer la connexion devrait donc rendre Starlink moins attractif, mais il faut que les réformes passent à l'Assemblée. Et vu la situation politique, rien n'est moins sûr. L'interview du directeur de la DGEN est à retrouver en intégralité sur notre site radio1.pf.
Starlink, justement, il en est aussi question dans les relations avec l'OPT.
En août dernier, un accord a été signé entre Onati et OneWeb et 24 îles bénéficient désormais d'une connexion avec un débit amélioré grâce aux satellites. Mais le service n'est pas aussi bon qu'espéré, avec une dizaine de coupures quotidiennes. OPT travaille donc à des solutions palliatives avec son ancien fournisseur Intelsat. Avec OneWeb qui doit étoffer sa constellation de satellites d'ici 2028 et des discussions ont déjà eu lieu avec Starlink aussi. Mais la firme d'Elon Musk refuse tout partenariat si le marché n'est pas entièrement ouvert. Et on vient d'en parler, une ouverture complète du marché aujourd'hui signerait la mort des opérateurs. Par contre, pourquoi pas l'autoriser sur quelques zones? Le directeur technique Donati, Tehina Tulay, au micro de Lucie Sicarelli.
Le pays a un compte sorti une loi de pays autorisant un nouvel acteur international par satellite, donc on pense à Starlink qui fonctionne déjà chez nous, en limitant ses autorisations aux zones blanches. On a travaillé avec la DGEN dans ce sens-là, on est d'accord avec cette possibilité-là. Il faut définir maintenant précisément les zones blanches en question, où Starlink serait autorisé. En dehors de ces zones blanches, bah, normalement le client ne pourra pas avoir Starlink et devra se reposer sur les opérateurs locaux, donc Onati, PMT, OVD. Et ensuite, voir aussi avec la loi de pays comment le contrôle pourrait être fait pour s'assurer que les antennes ne sont pas achetées en zone blanche et ensuite déplacées n'importe où. Donc on veillera à ça, une fois que la loi sera votée.
Voilà, une fois que la loi sera votée. Et en attendant, le déploiement avec OneWeb se poursuit. D'ici septembre, Here Here Tue, Tematangi, Aratika, Puka Puka et Napuka seront à leur tour connectés.
Autre sujet de débat, la représentante Hina Mueura Morgan-Cross a proposé une résolution pour condamner le rejet de cocaïne en mer.
On s'en souvient, en début d'année, trois opérations de lutte contre le narcotrafic ont abouti à la destruction de 11 tonnes et demie de cocaïne, tout simplement rejetées en mer. L'État avait précisé que la drogue avait été déversée en pleine mer, hors de la ZEE, loin des zones de pêche et des aires marines protégées et sans les plastiques et autres emballages. Mais ça avait tout de même fait réagir. Une scientifique australienne s'était interrogé dans la presse de son pays sur les conséquences de ces rejets sur les écosystèmes marins. Le Tavigny avait dénoncé des décisions aux conséquences potentiellement désastreuses pour notre environnement, prises sans l'accord des autorités locales. Hinamoe Ura Morgan-Cross remet le sujet sur le tapis. La représentante note qu'en Australie, la cocaïne n'est pas déversée dans l'océan, mais incinérée.
Ce texte, il est destiné à la fois à l'État français, mais aussi c'est un message pour la communauté internationale, la communauté du Pacifique, pour que les grandes puissances aussi arrêtent de prendre notre océan qui fait partie de la culture et du peuple polynésien comme une poubelle. Donc on pense à toutes les expérimentations nucléaires qu'il y a eu dans le Pacifique, au fait aussi que le Japon continue de déverser les eaux radioactives à Fukushima. Donc voilà, à la fois une portée locale, une portée pour la France et une portée internationale.
Les Lutavini Mitematapati et Pascal Haitifloss Dutapura ont co-signé la proposition de Hinamoe Ura Morgan-Cross, un texte qui doit donc être étudié en commission à l'Assemblée aujourd'hui.
On reste dans l'environnement avec ces annonces du gouvernement.
Comment la fosse à ciel ouvert de la Punaru a pu être exploitée pendant 40 ans sans répondre à la réglementation ICPE ? La question avait été posée à l'Assemblée la semaine dernière. Le gouvernement avait répondu que la DIREN avait fait son travail, mais il y a quand même du changement dans l'air, avec d'abord un renforcement des agents. Il passe de 5 à une vingtaine d'agents assermentés. Et côté réglementation, Taivinitei veut permettre aux inspecteurs de se concentrer sur les installations les plus complexes et les plus à risque et proposer des procédures plus légères pour les autres installations. Un premier projet de loi du pays doit être présenté dans les mois à venir. Plus de détails sur notre site radio1.pf.
Vous écoutez le journal de la rédaction, il est 7h07 et on revient sur ce drame avec cet incendie dans le quartier de Hawaï à Faa.
Une maison a entièrement brûlé dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier de Hawaï à Faa. Une deuxième a été touchée par les flammes. Un quadragénaire est décédé, une autre personne a été grièvement blessée. Une enquête a été ouverte sur cet incendie. Un pêcheur aussi a été retrouvé mort à Paea. C'était dimanche, il avait 75 ans. Et puis cette opération a réquitté à ce week-end avec un important déploiement de gendarmes dans la nuit de samedi à dimanche. D'après TNTV, 8 marins d'un chalutier péruvien ont été interpellés et des fouilles du bateau ont été lancées, probablement pour rechercher une cargaison de stupéfiants. Le parquet n'a pas encore communiqué sur cette opération.
Et dans l'actualité aussi ce week-end, il y avait cette marche en souvenir de Hayden.
Oui, et aussi pour interpeller les autorités sur la maltraitance des enfants. 200 personnes étaient rassemblées à Papeete et d'autres marches ont également été organisées en même temps à Moria et aux Marquises. La maman d'Hayden s'est dite touchée par cette mobilisation. Elle espère désormais que les autorités vont changer les choses, tout comme la présidente de l'association qui organisait la marche, Rahei Touno, au micro de Charlie René.
C'est pas un cas isolé. Juste avant Eden, il y avait Brian, un petit de 2 ans, qui est décédé par étranglement dans son propre foyer. Donc c'est pas des cas isolés et on entend souvent « j'en suis pas mort hein, », cette façon d'éduquer sans violence. « J'en suis pas mort », oui, mais il y a des enfants qui en sont morts. Et combien même il y a des enfants qui portent leurs blessures, leurs traumas toute leur vie, même leur vie d'adulte, et qui vont répéter ces schémas-là sur leurs enfants. Plus jamais d'Eden, c'était la dernière. Plus jamais de violence dans nos foyers. Et le plus dur reste à venir.
Voilà, le plus dur reste à venir, c'est-à-dire rappeler le gouvernement à ses promesses et les concrétiser. Après le drame, la vice-présidente Minari Galnon avait parlé de renfort des services sociaux, d'accentuation des contrôles, de formation des accueillants familiaux, d'évolution réglementaire et surtout des assises de la petite enfance présentes dans le cortège. Minari Galnon a parlé de projets en cours sans souhaiter les détailler.
Un peu de sport avec cette victoire de Moana Domenech.
Le Polynésien a remporté hier la Toa Pro Papara en longboard, étape du circuit régional QS de longboard cette saison. Son objectif, intégrer le prestigieux Longboard Tour WSL et du coup, c'est bien parti.
Incroyable, j'arrive pas à y croire, j'ai bien géré, je suis tellement content, c'est le premier QS que je gagne de ma vie. Normalement, je monte à la première place du ranking, donc c'est parti, hein. Let's go.
Voilà, let's go pour réussir à être sur le tour élite en longboard. Et place désormais au shortboard. Les Polynésiens auront sans doute envie de prendre leur revanche sur les Hawaïens qui ont raflé les titres sur la Toa Pro à Tapuna la semaine dernière.
Et puis en foot aussi, Auckland FC est le champion de l'OFC Pro League.
Et 4 mois après le lancement de cette première saison d'OFC Pro League, Auckland FC a donc remporté la finale de la compétition dimanche à l'Eden Park. Tahiti United a terminé 6e sur 8 de la saison régulière, mais il se prépare déjà pour la prochaine saison qui commencera en janvier 2027. Et puis ces autres résultats aussi du week-end. Sur la swimrun à Moorea, les frères Amaru, le binôme Moana Chinisson et Solène Bernagou et le binôme Mylène Gauthier et Océane Mindron l'emportent sur le M. Sur le XL, ce sont Franck Digonnet et Eddy Pongfat, Lou Seyer et Donovan Dupuis et Charlotte Robin et Nathalie Viratel, les binômes vainqueurs. En bas, il y avait aussi la Tahoe du côté de la Pointe Vénus. C'est le rameur de Shell, Charles Teinauri, qui a gagné l'épreuve Rennes. Prochaine compétition en V1, la Super Tahoe, ce sera le 20 juin prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. À noter que nous recevons une invitée à 11h30 ce matin. Evelyne Brichet est la première Polynésienne à être élue présidente du groupe des Outre-mer du Conseil économique, social et environnemental à Paris. Et elle sera avec nous. Ce sera à suivre en direct à partir de 11h30 sur nos antennes Radio 1 et Thierry FM et en live sur nos pages Facebook. Et moi, je vous retrouve à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup, Lucie. À tout